Quand j'étais gosse, on m'expliquait qu'il ne fallait pas pointer les gens du doigt. Et peut-être vous l'avez entendu vous aussi, mais mon grand-père, il aimait à dire, quand tu pointes du doigt quelqu'un, il y a trois doigts qui pointent vers toi. On pourrait le dire autrement en disant, qui accuse s'accuse. Et l'histoire que je voudrais révisiter avec vous aujourd'hui, parce que vous la connaissez tous, j'en suis sûr, cette histoire nous illustre bien ce problème-là. Elle se trouve au début du chapitre 8 de l'Évangile de Jean, et nous allons la découvrir sans tarder. Évidemment, ça ne marche pas. C'est pas si simple. Hein? Bon. Jésus s'en alla vers le mont des Oliviers. Mais dès l'aube, il retourna au temple. Tout le peuple vint à lui. Ayant pris place, il les enseignait. Une scène paisible, s'il en est. Vous savez, Israël est un pays chaud. Il faut se lever tôt pour faire des choses qu'on a à faire parce que, à partir de midi, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, ce n'est pas surprenant que, dès l'aube, Jésus va au temple pour enseigner ceux qui veulent bien l'écouter. Il s'assied, on imagine bien les gens autour de lui, pour écouter ce qu'il leur raconte, éventuellement poser des questions, une scène très paisible, mais ça va changer tout à coup. Hein? Il y a quelqu'un qui a une affaire là. Ça va changer tout à coup, il y aura une irruption brutale. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme qui a été prise en train de commettre l'adultère. L'ayant placé au milieu, ils lui disent « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Et toi, qu'est-ce que tu en dis ?» Tout à coup, la scène change, donc. Il y a quelque chose d'hostile qui se passe. Il y a une foule qui arrive, ils traînent une femme, ils la placent au milieu, ils disent « Regarde-la, on vient de la surprendre en train de commettre l'adultère. » Il y a plein de témoins, la loi est claire. Moïse a dit effectivement, les adultères doivent être mis à mort. Lapidation dans certains cas, mais simplifié un petit peu. Et maintenant, qu'est-ce que tu en fais de ça? Et j'entends ici une petite réminiscence du sermon sur la montagne, où Jésus disait, il vous a été dit, et là il cite souvent des textes de la loi, et puis il dit, mais moi je vous dis. Hein? Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il y relança en quelque sorte, il dit, ah voilà une situation, la loi dit ça, et toi, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Mais au fond, leur souci, ce n'est pas tellement d'avoir une explication de la loi, qui d'ailleurs est assez claire. Jean nous explique qu'il disait cela pour le tenter afin d'avoir quelque chose pour l'accuser. Donc nous sommes en présence, comme souvent dans les évangiles, un piège. Ils tendent un piège à Jésus. Ils veulent le pousser dans une situation où il ne pourra sortir que perdant. Pourquoi? Quel est le piège ici? De deux choses l'une. Ou bien il dit, allez-y, lapidez-la. Situation claire, loi claire. Allez-y. S'il dit ça, il va déjà s'aliéner une partie de son auditoire, parce que il se présentera en quelque sorte comme un taliban, comme un pur et dur. Nous n'avons pas d'indice dans les textes historiques qu'à l'époque de Jésus, cela se pratiquait encore. La loi prescrivait certaines choses, mais ça ne veut pas dire que les gens les pratiquaient forcément. Et on n'a pas l'impression que cela était courant à l'époque de Jésus. Donc, en quelque sorte, il se présentait comme la vieille école, dure. Mais plus grave que ça, s'il ordonnait en quelque sorte à ces gens-là de lapider cette femme au plein centre de Jérusalem, il se mettait les Romains sur le dos. Parce que vous le savez, de l'histoire de la Passion, que les Romains se réservaient le droit de la mise à mort des personnes. Les Juifs ne pouvaient pas lapider le premier venu comme cela leur chantait. Et vous savez, pour Jésus, il devait passer donc par Pilate, par l'autorité romaine. Donc si Jésus organise en plein Jérusalem une lapidation, il y a fort à parier que les Romains entreront sur le plan. Ça lui créerait des ennuis. D'un autre côté, s'il dit, allez, laissez-la, laissez-la partir. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se met en contradiction avec la loi de Moïse. Donc là aussi, il y a de quoi l'accuser. Donc quoi qu'il fasse, Jésus, il est perdant. Tout ce qu'il peut dire va lui attirer des ennuis. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, Jésus? Rien. Il ne dit rien. Mais Jésus s'était penché en avant et écrivit avec son doigt sur la terre. Drôle de réponse, n'est-ce pas? Ils ignorent plus ou moins. Et il écrit quelque chose. Ce qui a au moins deux effets bénéfiques pour la situation. Premièrement, il interrompt un peu ce mouvement brutal qui s'est mis en place et qui devait culminer dans cette lapidation qui se préparait. Ils étaient tous prêts. Il met un point d'arrêt, en quelque sorte. Le mouvement se brise contre ce silence. Et puis, je pense aussi, l'attention se déplace. Vous avez cette femme au milieu, tous les yeux rivés sur elle, qu'est-ce qui va se passer? Et puis tout d'un coup, l'attention, elle va vers Jésus. C'est surprenant ce qu'il fait, c'est étrange, on ne comprend pas bien. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous voyez, il y a comme une rupture dans les événements. Et il les oblige en quelque sorte à décanter un petit peu. L'émotion est chaude quand elle arrive, et il oblige à se placer là. Mais finalement, ils ne vont pas accepter qu'il en reste là, et on le comprend bien. Et il le pousse. Comme il continue à l'interroger, il leva la tête et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans faute soit le premier à lui jeter une pierre. » Puis il se baissa de nouveau et écrivit sur la terre. Donc, il lève finalement la tête et il leur dit une phrase. Mais c'est une bombe. C'est une bombe à retardement. Parce qu'il va les renvoyer vers eux-mêmes. Il dit, allez-y. La loi le dit, lapidez-la. Mais, une condition, que celui qui lance la première pierre soit sans faute. Et ça prend un peu de temps pour que ça rentre. Mais finalement, ils comprennent que personne là n'est qualifié pour lancer cette première pierre. Et puis, ils s'en vont. Le texte nous dit les plus vieux d'abord. Probablement parce qu'ils ont le plus vécu et ils ont le moins d'illusions sur leur propre état. Ils se savent atteints du péché. Et puis les plus jeunes, finalement aussi, finissent par comprendre. Au point que ils s'en vont tous. Et il n'y a plus que Jésus et la femme, et peut-être les gens qui étaient là au départ. Hein. Mais c'est devenu un face-à-face. Ayant levé la tête, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Ou peut-être « Personne, Monsieur hein, », on ne sait pas comment il faudrait traduire. Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus désormais. » Jésus se trouve face à cette femme. Et on pourrait se dire, ouf, elle est sauvée. Mais ce qu'elle ne sait pas, nous le savons, Jésus est l'homme sans faute. Alors s'il y en avait un sur la place qui pouvait la lancer, cette pierre, c'est lui. Mais il ne le fait pas. Et il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et arrête avec ce péché. » C'est un beau texte, n'est-ce pas ? C'est un texte magnifique, très construit. Hein ? Si vous le relisez peut-être un jour, vous ferez attention, c'est vraiment, même sur le plan littéraire, c'est très très bien fait. Hein. Vous avez ce mouvement de Jésus, il baisse les yeux, il lève, chaque fois qu'il lève les yeux, il donne une parole phénoménale. Et cela se répète donc deux fois. C'est un très beau texte. Et quand j'ai préparé cette prédication, comme toujours, je lis beaucoup de commentaires et puis j'écoute beaucoup de prédications parce que ça m'intéresse toujours ce que les collègues en disent, hein, pour ne pas oublier un point important. Et cette fois-ci, j'étais d'abord un peu amusé et puis, pour finir, un peu agacé parce que j'ai constaté que face à ce texte, les gens se perdent souvent. Ils s'arrêtent sur des choses qui ne lui importent pas. Alors les gens qui ont une sensibilité féministe, par exemple, ils vont regarder ce texte et ils vont vous dire, mais où est-il l'homme ? Hein ? Où est-il cet homme ? Pour un adultère, il faut deux personnes. Hein ? C'est un scandale, il n'y en a qu'une. Hein ? Comment ça se fait ? Hein ? Ça heurte la fibre féministe, bien sûr. Hein ? Et c'est vrai, il en faut deux. Mais on ne sait pas. Pourquoi il n'y en a pas pourquoi cet homme n'est pas là? Peut-être il a pu s'enfuir. Peut-être il est mort d'une crise cardiaque. Hein? On ne sait pas. Mais force est de constater que ce n'est pas le souci de notre texte. Ou alors, les gens s'intéressent beaucoup à ce que Jésus a pu écrire sur le sol. Alors là, il y a des hypothèses les plus farfelues. Hein. Et les gens passent beaucoup de temps et énergie à spéculer ce que ça a pu être. Est-ce que ça intéresse notre texte ? Non. J'ai écouté pas mal de prédications qui s'étalent longuement sur l'état émotif de cette femme. Qu'est-ce qu'il a pu subir ? On l'arrache au bras de son amant, on la traîne dans la rue à moitié à poil. Qu'est-ce qu'elle a dû ressentir ? La peur, l'angoisse, l'espoir. Mais si vous regardez notre texte, il ne s'intéresse absolument pas à cette femme. Elle n'a pas de face, pas de visage, elle n'a pas de nom. C'est presque un fantôme. Elle dit deux mots, hein, personne, Seigneur. Donc ce n'est pas sur elle qu'il faut se concentrer. Ce n'est pas elle qui est intéressante ici. Hein? Et je dis cela pour tous ceux ici qui enseignaient l'écriture, qui prêchaient ou qui préparaient des études. Hein. Quand vous travaillez sur un texte, ne le bombardez pas de vos questionnements, mais essayer de l'écouter. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Sur quoi il met l'accent, lui? Sinon, on risque de passer à côté du véritable message. Alors, dans notre cas, dans notre texte, le véritable message, je crois, il se trouve dans ces deux paroles de Jésus, ces deux paroles magnifiques et très connues. La première de ces deux, nous l'avons vu, elle fait l'effet d'une bombe sur ces gens qui veulent lapider cette femme. Que celui d'entre vous qui est sans faute soit le premier à lui jeter une pierre. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Je trouve que cette parole est très intéressante parce que elle nous positionne en quelque sorte par rapport à la loi. Je m'explique. Jésus n'est pas en train de dire ce qu'il a fait, c'est pas grave. Pas de quoi tuer quelqu'un. Il n'est pas en train de dire « Oh, la loi est peut-être un peu trop stricte, là. » Il n'est absolument pas en train de critiquer la loi. Non, non, il leur dit « Allez-y, mais attention, celui qui lance la première pierre, il doit être sans faute. » Je crois qu'il est en quelque sorte en train de leur dire « Ah, vous voulez appliquer la loi dans toute sa rigueur. » Très intéressant, mais réfléchissez bien, voulez-vous vraiment ça? Pouvez-vous permettre ça? Vous n'êtes pas sans faute. Il les renvoie avec une parole de jugement, en quelque sorte. Il les dit, vous êtes des pécheurs. Alors, soyez-en conscients et tirez-en les conclusions, parce que si vous lapidez cette femme, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Après, vous continuez, vous vous lapidez les uns les autres. Parce que vous avez tous enfreint la loi. Comme Jacques nous le dit, celui qui enfreint un seul commandement de la loi, l'enfreint tout entière. Donc Jésus, je crois, il est en train de leur dire, attention les gars, vous ouvrez une boîte de Pandore. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'exiger. Parce que si je vous prends à la lettre, si vous voulez vraiment la loi, vous ne pouvez pas la supporter vous-même. Et c'est pour ça qu'il est peut-être préférable que vous n'exigiez pas cette voie dans toute sa rigueur. Et puis ça continue dans cette deuxième parole qui est magnifique parce qu'elle pousse les choses encore plus loin. Parce que Jésus va lui dire à cette femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Est-ce que vous mesurez ce que ça veut dire dans la bouche de Jésus? Vous avez là, nous le savons, elle ne le savait peut-être pas, mais nous le savons, vous avez là Dieu lui-même, devenu homme, qui se tient là face à cette femme pécheresse, dont le péché ne fait aucun doute. Il n'y a aucun subterfuge, on ne peut pas dire non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, c'est clair. Il se tient face à elle et il lui dit, sans qu'elle dise quoi que ce soit, il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Dieu, le Dieu saint, le Dieu qui ne peut pas voir le péché, il dit à cette femme, « Je ne te condamne pas. » Il y a là de quoi être étonné, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, Jean nous dit dans le prologue de l'Évangile, « La loi nous a été donnée par Moïse. » Mais la grâce et la vérité sont arrivées avec Jésus-Christ. Parce que là, vous voyez arriver quelque chose qui existait déjà avant, mais qui devient de plus en plus net avec Jésus-Christ, à savoir que Dieu retarde le jugement. Dieu ouvre un temps de grâce. Dieu ouvre une période pendant laquelle il ne met pas à exécution ses condamnations. Ça viendra en temps voulu. Et nous savons que Jésus reviendra, et il reviendra en tant que juge. Et là, ça ne se passera pas pareil pour les adultères. Mais en attendant, Jésus a dit, « Je suis venu, non pas pour juger, mais pour sauver. » Et il y a là une parenthèse qui s'ouvre, une parenthèse de salut, où Dieu lui-même dit, « Moi, je ne vous condamne pas encore. » Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il vive, et donc il lui laisse le temps de réaliser sa faute, de demander pardon, et de remettre les choses sur les rails. Voilà toute la puissance, il me semble, de ce texte, cette double déflagration. Hein, d'abord, attention, vous, ne jugez pas, hein, parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. Et puis deuxièmement, et moi non plus, je ne juge pas en attendant. Alors, je crois pour nous, la conséquence de cela est claire. Hein, ne condamnez pas avant le temps. Hein, et surtout nous, ne condamnez pas pour que vous ne soyez pas condamnés. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors avant de clore sur ce que je pense que nous pouvons en tirer de pratique pour notre vie, je voudrais ajouter deux choses encore. Hein. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de tribunaux qui condamnent. Dieu a voulu que dans ce monde déchu, il y a un ordre relatif. Hein. Et il a confié au gouvernement et à l'ordre judiciaire de faire en sorte que cet ordre soit maintenu. Hein, c'est leur responsabilité. Ils font ça bien ou moins bien, mais c'est leur responsabilité. Hein, et les tribunaux doivent juger les mauvais comportements et éventuellement condamner les malfaiteurs. C'est tout à fait leur mission confiée par Dieu. Hein. Mais ce ne sont pas des jugements définitifs qu'apportent nos tribunaux. Hein, et vous le savez tous, de temps en temps, il arrive des erreurs judiciaires. Hein, ces jugements sont suspendus à la validation finale, je dirais, par le jugement que Dieu lui-même va exercer et qui est le seul jugement qui compte vraiment. Deuxième point, cela n'exclut pas non plus, hein, et l'Écriture est très claire là-dessus, cela n'exclut pas non plus l'exercice de la discipline dans l'Église. Si vous lisez des textes comme 1 Corinthiens 5, hein, vous verrez des textes très, très lourds, très durs, hein, à l'égard des malfaiteurs dans l'Église, hein, qui risquent de diviser l'Église, qui risquent de l'unir. Hein. Et pour les comportements inacceptables dans l'Église, hein, Dieu a confié aux responsables d'Église l'exercice de mesures disciplinaires qui sont aussi là pour permettre, en quelque sorte, le maintien de l'ordre. Là encore, et peut-être moins encore que pour ce qui concerne les tribunaux de l'État, il ne s'agit pas de condamnation, hein, à proprement dire. Ce sont plutôt des mesures qui doivent ramener sur la bonne voie ceux qui se comportent mal. Ce ne sont pas des condamnations et encore moins définitives. Hein, c'est très provisoire et elles doivent cesser dès que le mauvais comportement cesse. Voilà. Donc, je voulais juste que vous gardiez ça à l'esprit. Hein, cet avertissement « ne condamnez pas hein, » ne s'applique pas, bien sûr, aux tribunaux. Et il y a aussi l'exercice de la discipline dans l'Église. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, hein? Comment nous pouvons appliquer cette parole qui nous invite à ne pas condamner autrui? Et j'ai longtemps réfléchi sur des situations qui pouvaient se présenter à nous où cet interdit nous concernerait. Et en réfléchissant, je pense que cet interdit touche notamment à la frontière entre l'Église et le monde, là où nous rencontrons des gens du monde avec toutes les horreurs qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Un exemple d'actualité, on pourra dire. Imaginons un jeune couple d'homosexuels qui vient de se marier et qui viennent maintenant chez nous pour faire bénir leur union. Bon, je n'ai pas besoin d'insister longuement là-dessus, je crois. Vous savez tous que la parole condamne sans réserve, hein, la pratique de l'homosexualité. Et donc nous ne pouvons pas bénir une telle union parce que nous ne pouvons pas bénir ce que Dieu condamne, hein, pour être clair. Nous deviendrons des sortes de Balaam à l'envers. Hein. Nous ne pouvons pas faire ça. Si une église fait ça, elle est insensée. Mais imaginons que ces gens viennent et leur expliquent cela. On ne peut pas bénir. Dans la plupart des cas, ces gens vont partir, hein, remonter contre nous. Mais imaginons maintenant que nos deux jeunes hommes restent et disent bah, c'est bizarre, ça m'intrigue, j'aimerais en savoir plus. Hein. Et puis ils se mettent à fréquenter nos réunions, nos cultes, nos études. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça? Ils continuent à vivre comme avant. Hein. Alors je sens que certains d'entre nous se sentiraient investis du rôle d'ange d'exterminateur. Hein. Ils se sentiraient des ailes poussées, hein, et une épée flamboyante, hein, pour chasser le mauvais, hein, hors du paradis. Hein. Bible en main. Hein, ils citeraient Paul et disent à des hommes qui couchent avec des hommes n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. C'est écrit, hein, je n'invente rien. Mais là, je dirais, chers amis, si vous sentez les ailes pousser, l'épée, hein, rengainez-la tout de suite, votre épée flamboyante, hein, avant qu'elle vous brûle les doigts. Et souvenez-vous de notre histoire et de Jésus qui dit que celui d'entre vous qui est sans faute soit le premier à lui jeter une pierre. Parce que voyez-vous, si vous prenez cette parole de Paul que je viens de citer, si vous la lisez en entier dans le contexte, vous verrez que la menace est beaucoup plus large. Elle ne concerne pas spécialement les homosexuels. Elle concerne les coléreux. Elle concerne les ivrognes. Elle concerne les excès de table et concerne les insultes. Et je pourrais continuer longuement comme ça. Tout cela sont des choses qui nous barrent l'entrée dans le royaume. Hein? Ce qui nous barre, en fin de compte, l'entrée dans le royaume, c'est le péché. Et ça, c'est quelque chose que nous retrouvons aussi bien chez nous, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis, quand vous touchez, quand vous entrez en contact avec les gens du dehors, avec toute leur faute, parfois très choquante pour nous, hein, beaucoup moins sublime que les nôtres, hein, ne lancez pas la pierre. Accueillez-la, parce qu'ils ont besoin d'entendre la parole. Ils ont besoin, comme nous, d'être exposés à cette parole, de l'entendre, de se laisser juger par elle, et finalement, de changer de voie pour vivre. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Dieu a ouvert une période de miséricorde, une période pendant laquelle il veut que les hommes viennent à lui. Et là, il n'y a pas de limitation. Si Dieu ne se montrait pas miséricordieux de la sorte, il n'y aurait pas grand monde à la fête de l'agneau. Alors, soyons fermes dans la foi. Agissons en accord avec les lumières que nous avons reçues. Prenons très au sérieux le péché. Prenons-le jamais à la légère, surtout le nôtre. Mais ne condamnons pas ceux qui trébuchent et qui ne vivent pas comme nous Et surtout, ne les empêchons pas, par nos condamnations préalables, de venir à Dieu. Hein? Parce que si nous le repoussons dehors, c'est comme si nous le lapidions. Vous croyez que dans le monde, ils vont entendre la parole qui va les sauver? Vous ne croyez pas que c'est plutôt chez nous qu'ils pourront le faire? Faisons bon accueil aux pécheurs, afin qu'ils puissent écouter avec nous la parole de Dieu et se laisser juger par elle. Et remercions à Dieu de nous avoir ouvert la porte du royaume par le sacrifice de son Fils. Ne condamnez pas pour que vous ne soyez pas condamnés. Amen.